Bonjour à tous, je suis Quentin, le cofondateur des Mini-Mondes, des héros qui font découvrir le monde aux enfants. Et chaque semaine, je reçois des familles qui ont parcouru le monde avec leurs enfants. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Amandine, qui a parcouru l'Europe et l'Afrique. On va parler de tout ça avec toi, Amandine. Bienvenue.
Merci.
On est ravis de te recevoir, c'est chouette. Merci de nous accorder ce petit moment.
Merci de m'accueillir.
Alors, tu es la maman de deux enfants, si je dis pas de bêtises.
Voilà.
Qui ont quel âge ?
Donc aujourd'hui, elle a 10 ans et demi et mon fils va avoir 8 ans dans 3 semaines,
génial.
À peine.
Génial. Et donc, tu as une aventure sur le temps long parce que tu as quasiment baroudé pendant 4 ans, si je dis pas de bêtises.
Alors, ça fait 5 ans en fait de vie un peu, pile poil 5 ans parce qu'on est parti en camping-car en janvier 2019.
5
et là,
ans,
on est
quasiment.
Revenu en janvier 2024. Donc,
quasiment 5 ans d'aventure à travers le monde, décomposé un peu en deux temps. Enfin, on va en parler après, mais il y a un premier tour d'Europe avorté par le Covid.
Voilà.
Et après, direction le Congo.
Voilà.
Génial. Eh bien, écoute, tu vas pouvoir nous parler de tout ça. Mais en intro, on va rétro-pédaler un petit peu, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on a deux enfants et on se dit « Ok, on va faire le tour d'Europe ».
Alors, le cheminement, en fait, en 2018, on était une famille tout à fait normale avec deux enfants, deux CDI, deux voitures. voilà, une grande maison en location en périphérie de la ville. Enfin, voilà, on était monsieur et madame tout le monde, entre guillemets. Et on s'est dit avec mon mari, alors c'est bien, on a atteint cette sorte d'objectif un petit peu social de stabilité, de sécurité, tout ça. Et en même temps, après, le but, c'est quoi ? C'est quoi dans notre vie là ? C'est de maintenir ça en fait pendant des décennies. Et ça nous branchait pas plus que ça. Moi étant passionnée d'éducation, d'inclusion, tout ça, je venais de participer à un colloque national sur justement l'inclusion dans le monde et surtout dans les pays d'Europe. Et du coup, il y avait plein de ressources, plein de choses qui se faisaient dans d'autres pays sur voilà comment on accueille les enfants, quel est le programme scolaire et comment on peut l'adapter à tous. Et je trouvais ça passionnant. Et je me dis mais pourquoi est-ce qu'on reste dans notre petit fonctionnement français qui n'est pas forcément le meilleur. Alors il a ses qualités, ses défauts, hein, mais il y en a plein d'autres en fait. Et c'est dommage de pas s'inspirer de ce qui se passe ailleurs. Et du coup, mon mari et moi, on a toujours aimé voilà les camping-cars, les caravanes. on a toujours été adeptes de ce type de vacances et de voyages. Et du coup, on s'est dit, on pourrait partir, nous aussi, en camping-car, voir comment ça se passe ailleurs, quoi. Avec les enfants, en plus, pour leur montrer aussi comment ça se passe ailleurs et comment vivent les autres ailleurs.
À ce moment-là, ils ont quel âge, les enfants ?
Donc là, en 2018, mon fils, il venait d'avoir, il avait 2 ans et quelques.
Ouais.
Et ma fille, donc, elle avait 5 ans. En plus, on s'est dit, c'est le moment de faire ça aussi quand ils sont petits. Parce que, au moment de l'adolescence, on sait qu'il y a des besoins d'identification, d'amitié, qui sont moins prégnants quand ils sont petits. Donc, ils vont nous suivre plus facilement petits qu'ados. Donc, on s'est dit, c'est le moment. Si on veut le faire, c'est maintenant.
Et entre le moment où, du coup, il y a un peu ce déclic et le moment où vous montez dans le camping-car, il se passe quoi ? C'est quelques semaines, quelques mois ou quelques années ?
Non, on a dû prendre la décision en juin, juillet 2018, quelque chose comme ça. Et puis après c'est se préparer, donc trouver un camping-car, trouver les fonds pour l'acheter, et puis voir avec le travail aussi comment on s'organise, est-ce qu'on quitte le travail, est-ce que mon mari était fonctionnaire, donc est-ce qu'il se met en dispo, il y a toutes ces questions-là d'organisation, et puis où est-ce qu'on va aller, donc on avait une grande carte d'Europe affichée dans le salon avec des petites punaises qu'on mettait avec les enfants, c'était le pays, tout ça, on irait là. Pourquoi pas ici ? Enfin, voilà, donc c'est...
Est-ce que dès le début, tu te projettes temps long ? C'est-à-dire qu'assez vite se dessine un tour d'Europe en 2-3 ans ou en fait, finalement, non, tu pars pour, je sais pas, 3-4 mois et puis en fait, plus le temps passe, plus tu te dis « mais c'est génial et je continue l'aventure ».
Nous, on s'est dit dès le départ qu'on partait pour une durée indéterminée. Tant que ça nous plaisait, tant que les enfants se plaisaient aussi et qu'on ne voulait pas faire tout vite, ni se dire « on a tant de temps ». On se dit « on y va ». On va passer le temps qu'on veut, là où on veut. Et puis, quand on veut changer, on change. Et puis, au fur et à mesure, on s'adaptera. Donc, on s'est dit, ça peut durer 2 mois, comme ça peut durer 2 ans ou 10 ans. Enfin, on suivait plein de familles qui voyageaient Voilà, que ce soit en Afrique, en Europe, aux États-Unis, dans des camping-cars, des tentes de toit, des...
Des amis et des proches, ou plutôt via
Non, en
les
fait,
réseaux, les blogs,
on a découvert tout un réseau en fait de familles qui voyageaient comme ça partout dans le monde. Et donc, ça nous a inspiré aussi. On s'est dit, bah oui, en fait, ça se fait. Et il y en a qui font ça depuis 20 ans, quoi, avec leurs enfants. Donc, voilà, on peut très bien aussi le faire.
Génial. Donc le projet s'est dessiné en fait assez naturellement finalement, et le tour d'Europe, c'est ce qui est devenu assez évident pour vous.
Voilà.
Et donc du coup, top départ, les enfants sont embarqués, vous chargez le camping-car
Voilà, on s'est
et...
dit, on louait une grande maison, donc bon, fallait vider la maison déjà, ce qui est une chose qui est pas évidente quand on quitte une grande maison pour aller dans un camping-car. Voilà, et du coup, on fait le vide aussi, donc ça, c'est
Oui, parce
intéressant.
que vous étiez en location et vous saviez que vous partiez pour une durée indéterminée, donc vous
Voilà,
rendez la maison
voilà.
et vous deveniez nomade en fait
C'est
quasiment
ça,
du jour au lendemain.
c'est ça. Plus d'adresse, plus de lieu fixe. Et puis bah voilà, on s'est dit, on va s'entraîner aussi un petit peu. À vivre en camping-car à quatre, on avait un petit chien en plus à l'époque.
Vous l'aviez déjà fait ou pas le camping-car
Non.
à 4? Ok. Oui,
Enfin, si, mais pendant les vacances, quoi. Mais
durée
bon,
courte.
voilà. Là, c'était pour vivre dedans 24 heures sur 24, 12 mois dans l'année. Donc, c'est autre chose. Donc, on s'est dit qu'on allait prendre le temps aussi de découvrir comment on s'arrangeait, on s'organisait ensemble. Pour vivre dans le camping-car, comment il roulait, enfin voilà, c'est des choses à tester aussi avant de partir à l'étranger. Et puis mon mari n'avait pas encore quitté son emploi, donc du coup on tournait un petit peu autour de la zone où les enfants étaient à l'école, où mon mari était au travail. Moi je travaillais à distance du coup à ce moment-là. Donc on s'est voilà pendant 3 4 mois on a fait comme ça, et puis mon mari s'est dit non en fait je peux pas rester à mon travail parce que ça nous bloque complètement et on peut pas on a enfin, 5 semaines de vacances par an c'est pas suffisant. Donc du coup il a quitté son emploi et on est parti voilà 3 mois déjà voilà traverser la France voilà s'arrêter où on veut
Et
et
là, vous aviez un cap déjà précis, c'est-à-dire par exemple, c'était cap sur l'Allemagne et on s'arrête par plein de points en France, ou finalement, c'était une exploration vraiment au gré de l'instinct et vous laissiez porter?
Bon, on s'est dit qu'on allait aller voilà, en Suisse. Donc, on a traversé la France par le milieu, en prenant le temps de s'arrêter là où on voulait, de rester le temps qu'on voulait. Et puis, on allait en Suisse allemande avec une association qui s'appelle Servas International. Je ne sais pas si vous connaissez. Mais du coup, c'est une association internationale qui recense des familles hôtes et des familles voyageuses. Et donc, on peut aller dans une famille. Pour les rencontrer et découvrir un peu. Donc, on a passé 4 jours, 4 jours, une semaine peut-être. Voilà, on a garé notre camping-car dans l'allée de garage d'une famille suisse-allemande qui avait 4 enfants. Et donc, du coup, on a découvert aussi avec eux qui parlaient pas français. Et nous, enfin, donc, c'était très, très sympa. Voilà, le coin, leur vie, leur façon de vivre. Et donc, c'était très, très intéressant. Donc, c'était le but un peu. Voilà, on avait 2 mois pour traverser la France. Tranquillement et s'arrêter où on voulait. Donc, on a découvert plein de coins sympas.
Donc, il y a une première partie où vous traversez la France. Donc là, vous commencez à bien connaître la France.
Ouais.
Vous arrivez en Suisse. Donc d'abord une escale chez une famille. Et
Voilà.
après, vous continuez aussi un peu à parcourir la Suisse ou...
En Suisse, on n'a pas fait trop parce que c'est pas trop trop adapté pour les camping-cars, la Suisse.
D'accord.
C'est pas facile de trouver des coins nature où on peut se poser avec le camping-car en Suisse.
D'accord.
En Allemagne, c'est plus simple. Donc, du coup, on est remonté en Allemagne. On faisait quelques campings de temps en temps pour avoir les douches et tout ça. Et puis autrement, on se garait ou on trouvait un coin sympa. Mais en Suisse, c'est moins facile.
Et l'Allemagne, pareil qu'en France, c'est-à-dire l'idée c'est on se laisse porter,
Voilà.
on prend le temps de découvrir du coup plein de grandes
Voilà,
villes,
c'est ça,
petites
ouais.
villes.
Plus petite, on n'est pas trop, trop grande ville. Donc, ouais, on s'arrêtait un peu. Voilà, tiens, il y a un camping. On avait Park Fortnite. Et donc, on s'arrêtait aussi là où parfois on disait bah là il y a un coin sympa n'est pas trop non plus aire de camping-car où il y a des camping-cars HLM là c'est pas c'était pas trop non... puis avec 2 enfants et un chien de toute façon on n'était pas forcément toujours les bienvenus donc voilà on s'arrêtait plus dans des endroits sympas où on pouvait sortir la table et que les enfants pouvaient jouer s'étaler comme ils voulaient.
Et c'était ma question d'ailleurs, parce que justement, ce contenu est très orienté pour les familles. À ce moment du périple, tes enfants, comment ils vivent l'aventure? Bien? Est-ce que coup de blues? Enfin, comment tu les sens évoluer au fil des escales?
D'une manière tout à fait naturelle, en fait. C'est-à-dire que mon mari et moi-même étant bien dans ce que nous faisions, bah, les enfants, ils nous suivaient et c'était totalement naturel pour eux, en fait, d'être là, de suivre, de s'arrêter, de sortir leur caisse de jouets, de s'étaler. Et puis, c'était normal. Alors qu'on allait dans des endroits où il y avait d'autres camping-cars, ils s'amusaient à aller faire le tour des camping-cars. Il y avait beaucoup de retraités, donc ils se faisaient toujours bien accueillir. Et puis, voilà, ils faisaient connaissance avec les gens sur place assez facilement. Et c'était normal.
Et la vie aussi dans le camping-car, vous avez réussi à la normaliser, parce que comme tu dis, tu passes d'une grande maison à 4 avec le chien, d'un coup la promiscuité avec ce que ça a de génial, mais aussi parfois peut-être que ça a de compliqué. Comment vous vivez aussi ce changement de vie de la grande maison au nomadisme ?
Eh bien, alors, ça fait 5 ans, donc peut-être que mon souvenir n'est pas totalement réel, mais j'ai l'impression que ça s'est fait aussi assez naturellement. C'est-à-dire qu'on a... Et voilà, on leur avait aménagé un coin pour les enfants au fond du camping-car. Donc, ils avaient chacun leur lit et puis des caisses pour leurs jouets, leurs vêtements, tout ça. Donc, c'était leur espace. Et puis après, il y avait l'espace de vie où on dormait avec mon mari. Donc, tous les soirs, on pliait, on dépliait le matin pour pouvoir dormir. Mais du coup, ça s'est fait aussi d'une manière assez naturelle et simple, en fait. On a l'impression que ça va être hyper compliqué. Et voilà, au fur et à mesure, on a trouvé plein de petits trucs. Et ça s'est fait avec une facilité, en fait, je trouve... qu'on n'imagine pas avant, forcément.
C'est vrai, c'est ce qui m'épate quand tu racontes, c'est parce que tu passes, comme tu dis, d'une vie entre guillemets bien rangée à d'un coup une vie complètement d'aventure, et j'ai l'impression que toute la transition se fait assez naturellement, du moment où vous avez le déclic jusqu'au ouais. moment où vous traversez la France, la Suisse, et puis vous arrivez en Allemagne, comme si tout ça était une sorte de suite assez naturelle,
oui,
et assez
ouais.
logique.
C'est un peu le sentiment, en fait, qu'on en a eu aussi. Alors bon, entre le moment où on a pris la décision, qui était voilà, peut-être en juin, juillet 2018, et le moment où on est parti dans le camping-car, bon, les enfants, ils ont le temps de s'y préparer aussi. Nous aussi, on a... Et puis voilà, le fait de suivre beaucoup de familles qui avaient fait ça déjà, ça nous a permis aussi de voir comment ils s'organisaient, quelles étaient les contraintes, quelles étaient les difficultés qu'ils avaient pu rencontrer. Et puis nous aussi, ils se préparaient à ça. Et du coup, on était finalement prêts à le faire. Et voilà, ça s'est passé vraiment... assez simplement.
Et une des particularités, du coup, quand on voyage avec des enfants, c'est l'école, notamment, qui est toujours un sujet pour les parents. Je ne sais pas si c'est bloquant, mais en tout cas, un des sujets sur lesquels on se pose beaucoup de questions. Comment toi, tu as vécu, du coup, donc tu n'avais qu'un enfant qui était scolarisé à l'époque, au début?
Non, il était en toute petite section.
Ah oui, il était même déjà en toute petite section.
Il était en toute petite section. Donc, ils ont fini leur année scolaire 2019, voilà, en juin. Et donc voilà, on a fait notre tour et on voulait normalement... alors attendez que je resitue tout, que je ne mélange pas tout. 2019... Ah oui. Et donc oui, parce qu'en fait, on a eu quelques contretemps aussi. C'est-à-dire que donc, quand on était en Allemagne, donc on souhaitait continuer. Sauf que ma belle-mère, donc la mère de mon mari, a fait une rupture d'anévrisme en Bretagne et était dans le coma. On était en Allemagne. Okay. Et donc du coup, on a dû rentrer en urgence... donc on est passé par la Belgique manger des frites parce qu'on avait dit aux enfants qu'on irait manger des frites en Belgique et on a retraversé la France en 2 jours. Donc là on n'a pas pris le temps de pour aller voir mamie qui était à l'hôpital à Saint-Brieuc et voilà qui est décédée le lendemain de notre arrivée quoi. Donc du coup ça a un peu chamboulé nos plans aussi et du coup on n'est pas reparti tout de suite parce que il y avait la famille de mon mari aussi qui était chamboulé aussi par ce départ. Et donc, on s'est dit, on va rester un petit peu sur Saint-Brieuc. Donc, on a tourné autour de Saint-Brieuc. Les enfants sont retournés à l'école, dans l'école de leurs cousins. Donc, on est resté un peu proche de la famille sur, de septembre jusqu'au Covid, en fait. Donc, on est resté dans ce coin-là, Bretagne, Bretagne-Nord. On tournait pas mal en Bretagne. Il y a des spots très, très sympas en Bretagne qui sont... ouvert toute l'année, ça c'est magique.
T'as raison, un road trip ça peut se faire au bout du monde comme ça peut se faire
tout
aussi.
Tout à fait. Bretagne, c'est magique quoi, hein, des petits coins au bord de la mer tranquille. Puis surtout en hiver en fait on n'est pas embêté. En été c'est moins drôle, mais en hiver c'est plutôt facile en fait de se trouver des spots très sympas.
Oui, parce que là on a passé le temps finalement, tout s'enchaîne entre France, Suisse, Allemagne, mais en réalité ça c'est plusieurs mois en fait déjà d'aventure jusqu'au moment où du coup vous devez rentrer pour des raisons personnelles en réalité. Et en plus il y a l'enchaînement du Covid, c'est ça, tout ça s'enchaîne quasiment à cette même période.
Et là Covid, donc du coup on est avec le camping-car, on voit des familles qui disent on est sur une aire de camping-car, ils veulent pas qu'on reste, tout ça, on sait pas où aller, donc on s'est dit qu'est-ce qu'on fait. Et du coup, on a un petit terrain à côté de Rennes qui était loué avant, mais le locataire était parti. Donc, on va aller sur le terrain. pour poser le camping-car et puis on attend, attendre la fin du confinement pour voir ce qu'on fait après. Donc on est allé sur notre terrain. On vivait dans notre camping-car sur notre terrain et voilà. Donc le premier confinement pour nous n'a pas été particulièrement désagréable en fait. Donc c'était plutôt sympa. Et du coup, donc on voulait repartir après, sauf que avec le Covid, il y avait les frontières fermées, les écoles fermées, les restos fermés, les musées fermés. On s'est dit, est-ce qu'on va réussir à repartir quelque part? Est-ce qu'on va pas rester bloqué dans un autre pays? On savait pas trop. Donc du coup, on est resté dans l'ouest de la France et on a fait du woofing. On est allé dans une famille qui voulait commencer sa mini ferme avec créer son potager, tout ça. Enfin voilà. Donc du coup, on allait passer 3 semaines chez eux.
Tu peux nous dire un peu le principe du
le woofing. Le woofing, en fait, c'est des. Alors, c'est pas forcément des agriculteurs, mais bon, en tout cas, c'est dans le domaine écologique. Voilà, globalement. Et donc, c'est des personnes qui accueillent contre hébergement et nourriture, ou nourriture, enfin, ça dépend, on s'organise comme on veut, qui accueillent d'autres personnes pour les aider à faire avancer leur projet. Et donc, du coup, c'est un échange de bons procédés, un échange de services, quoi. Donc, on choisissait des familles pour que les enfants aient aussi des enfants avec eux quand nous, on était à travailler. Quoi qu'ils travaillaient un peu avec nous aussi des fois, mais bon, ils étaient petits, donc c'était pas les meilleurs ouvriers.
Parce que là, tu faisais des vraies journées de travail?
Non, pas vraiment. Ça reste quand même ambiance... Okay. Ça reste une ambiance, pas vacances, mais
C'est plus de l'entraide. Participe.
Ouais, voilà, c'est okay. Vraiment de l'entraide. Et vu que nous, on était deux avec deux enfants, souvent il y en a un qui allait travailler, et puis l'autre qui restait avec les enfants, et puis le lendemain, on changeait. Donc, du coup, on avait tous, on participait chacun notre tour.
Donc, tu passes d'un tour d'Europe à porter, après, t'enchaînes sur du woofing, donc t'as une expérience encore complètement différente.
Ouais, mais très, très, enfin, vraiment super. Donc une petite ferme de maraîchage biologique, après. Une ferme plutôt avec des animaux et donc du coup on a appris à traire une chèvre, puis il y avait d'autres personnes qui étaient là, donc c'était un petit peu comme une grande communauté. C'est très très sympa aussi,
et même pour les enfants, j'imagine que ça, c'est des moments qui sont
riches, du coup, et ils sont là avec les animaux, avec la nature, avec les autres enfants, enfin c'est pour eux, c'est top aussi, ils ont...
Tu les vois toi aussi au fur et à mesure, parce qu'il se passe déjà beaucoup de mois du coup avec tout ça, tu les vois s'épanouir davantage, tu les vois peut-être évoluer aussi, grandir plus vite, je sais pas, comment tu les vois évoluer avec toutes ces expériences qu'ils vivent en un laps de temps très court.
Disons qu'on a peu de moyens de comparaison parce que du coup on n'était pas forcément on côtoyait pas beaucoup des personnes qui avaient une vie entre guillemets normale. Donc du coup toutes les personnes qu'on côtoyait avaient des enfants qui avaient aussi soit une vie de voyage, soit une vie à la ferme, soit, enfin, donc du coup, en instruction en famille, enfin bon, il y avait plein de styles de vie différents. Donc, nous, on voit que nos enfants, en tout cas, ils ont apprécié ces moments-là.
Ouais. Tu les sentais bien, en tout cas.
Ah oui, ils sont, enfin, voilà, à aucun moment on a senti, de toute façon, c'était clair entre nous, s'il y avait un malaise chez n'importe qui de nous quatre, on arrêtait l'aventure parce que le but, c'est que tout le monde s'y sente bien. Donc les enfants, ils étaient ils partaient jouer.
et donc là, je suis sûr que tout le monde se pose un peu la question parce qu'on l'a dit en intro, mais du coup, d'un tour d'Europe au woofing au Congo, qui fait que du coup, on arrive sur une expérience qui est encore complètement différente.
Donc on a fait 3 woofing, donc dans 3 endroits différents. Au troisième, au bout de une semaine et demie, on a eu un décès, même chose, voilà. Donc on a dû repartir. Dans le Finistère, pour l'enterrement et ainsi de suite. Donc, ça nous a coupé dans notre dernier woofing. Donc, après, l'enterrement, tout ça, on est reparti dans ce woofing-là pour refaire, finir un petit peu, parce qu'on était parti. Ça nous avait coupé dans notre élan. Et donc, il y avait la loi qui sortait sur l'instruction en famille qui n'était plus soumise à déclaration, mais à autorisation. Donc, ça nous a un peu, bloqué un petit peu dans notre élan. Et puis, on finissait notre dernier woofing et pouf, deuxième confinement. Donc là, on était un petit peu dépités. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Parce que, notre camping-car, ça faisait 2 ans qu'on tournait avec. On l'a pas ménagé, la montagne, tout ça. Il était vieux. C'est un vieux camping-car de 93. Donc, il avait déjà bien vécu et il avait souffert. Et on s'est dit, est-ce qu'on va pouvoir partir faire un tour d'Europe et quand? Donc, c'était un peu la question. On se voyait pas du tout reprendre un CDI, une maison. Voilà, c'était pas du tout notre. Enfin voilà, c'était un peu le projet avorté. Et du coup, voilà, pendant le confinement, on a beaucoup échangé avec notre voisin, parce que c'était la seule personne qu'on pouvait côtoyer facilement. Et donc, notre voisin a vécu pendant plus de 15 ans à Pointe-Noire au Congo. Donc, il nous parlait beaucoup du Congo. Voilà, tous les Congolais du secteur étaient rendus chez lui. Donc, du coup, on vivait dans l'ambiance congolaise. On s'est dit, bon, quitte à partir, autant partir et s'installer quelque part, pareil, pour une durée indéterminée, tant que ça nous plaît. Et on s'est dit, bah, allons au Congo. Voilà, partons à Pointe-Noire.
Ça s'est fait comme ça.
Voilà, on s'est décidé en novembre, décembre. Et du coup, on s'est dit, en août prochain, on sera au Congo. Le temps de revendre le camping-car, d'acheter les billets d'avion, de se faire mettre un peu d'argent de côté. Parce que pour partir là-bas, il faut quand même avoir un peu d'argent de côté. Donc, on s'est donné ces 6 mois pour partir. Et on est arrivé là-bas, un mois après ce qu'on avait prévu. Mais on est arrivé là-bas mi-septembre 2021.
Et donc là, par contre, vous vous installez, c'est-à-dire vous trouvez un pied-à-terre au Congo.
Voilà.
Là, c'est plus une expérience de barouder au Congo, c'est vraiment une expérience, vous trouvez un pied-à-terre et vous installez au Congo. Pareil, en se disant, on verra.
Voilà.
peut-être qu'on va y rester 2 mois, 3 mois ou 1 an, 2 ans.
Voilà. Après, c'était un peu l'idée aussi de découvrir la vie congolaise, de découvrir les Congolais, de découvrir l'Afrique aussi, dans l'idéal. Après, ça s'est pas tout à fait non plus passé comme on le souhaitait, mais c'était une expérience qu'on regrette pas et qu'on est très content d'avoir vécu ensemble.
Quand tu dis que ça s'est pas passé exactement comme tu pensais, c'est quoi, enfin, c'était quoi les quelques faits un peu marquants
versus
ça?
Voilà, nous, dans notre façon de voir la vie et l'éducation, on voulait passer du temps avec nos enfants, partager des choses avec eux. Et c'est vrai qu'au Congo, quand on travaille beaucoup. C'est pas aux 35 heures. Mmh. Et donc, du coup, mon mari travaillait 60 à 70 heures par semaine.
Parce qu'il avait trouvé du coup un job là-bas.
Voilà.
Ouais. Toi aussi?
Moi aussi.
OK.
Et donc, du coup, on travaillait tous les deux. Et au final, on avait très peu de week-ends. On n'avait pas vraiment de vacances non plus. Et donc, on n'a pas vraiment pu découvrir le coin comme on aurait voulu et passer du temps avec nos enfants comme on aurait voulu non plus.
Okay.
Donc, voilà.
Ça donc finalement, ça sortait un peu de ce que vous aviez voulu créer au début.
Voilà.
Finalement, l'équilibre que vous aviez trouvé là-bas n'était pas celui que vous aviez vraiment espéré.
Voilà. Okay. Donc, c'était super. Hein. On a adoré passer ces 2 ans et quelques là-bas, mais là, on s'est dit, c'est le moment de rentrer.
Et les enfants, du coup, avaient commencé leur scolarité là-bas.
Ils avaient commencé poursuivi. Ils sont allés à l'école là-bas, donc à l'école dans une école congolaise. Et ils ont fait 2 ans dans une école. On a changé ensuite parce que ça convenait plus trop. Mais c'était aussi cette question de rester au Congo. Ça veut dire aller au collège au Congo pour ma fille, parce qu'elle rentrerait au collège en septembre prochain. Et ça, c'était un problème parce que il y a peu de collèges. Il y a un lycée français qui fait collège-lycée, et autrement, il n'y en a pas beaucoup, et c'est assez cher. Donc, on n'avait pas non plus trop les moyens de payer une école privée chère pour le collège. Et on s'est dit, bon, comment on fait, quoi? Voilà, ça faisait partie des incertitudes et puis des choses qui nous ont ramenés en France aussi, parce qu'elle arrive aussi à un âge où les amis, c'est important, avoir un cercle qu'on retrouve et avec qui on entretient des relations sur la durée, ça commence à être important pour elle. Donc, on entend ce besoin-là et on s'est dit, allez, on repart.
Donc, à un moment où vous avez senti que c'était la fin, ça y est, vous étiez devenu pas donné de date de fin, mais là, à un moment, vous vous êtes dit, OK, c'est le moment de rentrer.
C'est ça.
OK, OK.
Donc, ça fait pile poil 5 ans.
Et donc, ça fait pile poil 5 ans. Et donc, tu as un de tes enfants quasiment qui a vécu toute sa vie un peu comme un globe-trotteur.
C'est ça. Léon, quand on est parti en camping-car, il n'avait pas encore 3 ans.
Ouais.
Parce qu'il est il est de mi-février. On est parti en début janvier, donc il n'avait pas tout à fait 3 ans. Et donc voilà, il a vécu 2 ans et demi en camping-car, 2 ans et demi au Congo.
C'est incroyable.
Donc il ne connaît pas en fait, entre guillemets, une vie normale en France. Donc là, il découvre, mais l'avantage, c'est qu'il a développé une capacité d'adaptation qui est assez hallucinante. Et en fait, tout lui semble normal. C'est-à-dire qu'il revient, il s'adapte à une nouvelle école, à des nouveaux copains, à un nouveau rythme, et ça passe.
Et là, tu te rends compte peut-être, tout à l'heure, je te posais la question sur est-ce que tu les as vus évoluer, mais peut-être que maintenant, par contre, à posteriori, tu vois que le petit s'adapte peut-être vachement beaucoup plus vite
c'est
que d'autres enfants.
C'est impressionnant. Enfin, voilà, il a changé. Enfin, je ne sais pas combien d'écoles il a fait en tout. Il est en CE1. Il a fait 2 écoles au Congo. Il a fait 4 ou 5 écoles en France. Voilà, donc maintenant, il arrive dans une école. Ben, c'est bon, quoi.
Ouais, c'est dingue. Ouais.
Voilà, il a cette facilité, peut-être même plus que nous, hein, d'ailleurs, parce que nous, on a d'autres habitudes.
Ce que je veux dire, c'est que finalement, peut-être que c'est pour vous que c'est le plus perturbant de revenir à une vie plus sédentaire, finalement.
Oui, ce que ça implique pour nous, c'est peut-être plus difficile que pour lui, où du coup, voilà, il va retourner dans une école, il va se refaire des copains, il va refaire du foot, et puis, voilà, c'est, oui. C'est normal, c'est la vie, quoi.
Oui. Et donc, finalement, vu que vous, c'est un périple sur le temps long, j'ai l'impression que vous avez dû beaucoup vous adapter, finalement, entre les raisons personnelles,
ah oui, tout à fait.
Le Covid, qui est l'élément le plus imprévisible qu'il puisse avoir. Mais finalement, maintenant, a posteriori, comment tu vois cet enchaînement des rencontres, des destinations, etc. Il y a le côté sans regret ou il y a le côté quand même un peu de se dire, c'est ce tour d'Europe qu'on voulait faire, qu'on n'a pas pu faire et que du coup, on va refaire bientôt, comment?
Non, on n'a aucun regret parce que, effectivement, comme tu le dis, c'est, les rencontres qui font que, on va partir plutôt là que là. Et même si l'idée de départ, elle était plutôt claire dans notre tête, finalement, tout ce qu'on a vécu, c'était à chaque fois plus riche et le woofing, c'était pas prévu. Et bon, finalement, le fait d'en avoir fait, on a trouvé ça vraiment génial. Le Congo, c'était pas prévu, mais c'est l'Afrique, ils le feront peut-être jamais une autre fois dans leur vie, quoi. Donc là, ils l'ont fait, ils ont vécu avec des Congolais, ils sont allés à l'école congolaise. C'était des seuls blancs dans l'école. Enfin, je veux dire, c'est des choses qu'ils vivront sans doute jamais, quoi. Ou peut-être, j'en sais rien.
Ouais. Et en plus, qu'ils ont accueilli visiblement positivement et.
Ben oui. On se demandait si ça allait être un peu difficile pour eux d'être les seuls blancs dans une école congolaise. Alors mon fils, lui, alors c'était, il arrivait en grande section là-bas. On a l'impression qu'il voyait même pas que certains étaient d'une couleur, lui d'une autre. Ça l'a absolument pas. Jamais il a mentionné ça. Bon, ma fille qui était en CE2, du coup, elle l'a remarqué parce que on lui faisait remarquer et du coup elle a vécu la différence. Elle-même. C'est pas voir la différence chez les autres, c'est vraiment elle-même. Moi, je suis différente. Et comment je fais, moi, en étant différente, en étant la seule qui est comme ça. Et du coup, elle dit, ah oui, je comprends maintenant. Un tel, c'était le seul noir de ma classe. Je comprends maintenant.
mais c'est ça qui est fascinant. C'est un super exemple, ce que tu donnes. Et d'avoir aussi le regard opposé, de pouvoir se poser ces questions, etc. C'est génial. Mm-hmm. Et justement, ça cultive l'ouverture d'esprit, la curiosité.
Voilà, c'est un peu... notre objectif, c'était ça. C'était de leur ouvrir les yeux un peu sur le monde, de voir qu'il y a une façon de vivre en France, entre guillemets, normée. On peut sortir de cette norme, on a le droit, si on veut vivre en camping-car, en bateau, en immeuble, en maison, comme on veut. Enfin, je veux dire, on peut vivre comme on a envie de vivre. On a toujours ce choix-là. Mm. Que ce soit en France ou ailleurs dans le monde. Enfin, voilà, c'est qu'ils aient cette notion de choix, en fait. Que s'ils veulent vivre dans un immeuble en ville, ils ont le droit. Mais il ne faut pas que ça soit parce qu'ils imaginent qu'il n'y a pas d'autres possibilités.
C'est-à-dire que dès le début, tu voulais, entre guillemets, vous n'êtes pas parti en disant « on veut juste voir des beaux paysages ».
Non,
il y avait
non,
cette envie de partir aussi avec... cette envie aussi un peu éducative aussi de dire...
Oui, complètement.
Ouais, de montrer qu'il y a des manières différentes de vivre, de montrer que... Ok,
voilà.
Je comprends.
Et que voilà, on est tous différents, on a tous une culture, une histoire, un environnement différent, une éducation différente, mais que chaque être humain vaut le coup d'être découvert. Donc.
Et le pari est réussi, j'imagine, sur ce. Sur cet aspect-là.
Je pense, j'espère. J'espère qu'à long terme, on verra. on verra. Après, là, on a l'impression qu'en fait, c'est tellement normal pour eux qu'on voit pas encore forcément d'effet, mais peut-être que plus tard, avec le recul aussi, parce que bon, on est rentré il y a 3 semaines, hein, donc.
C'est ce que je veux dire.
C'est
vous
tout
en
neuf.
Retenez,
Donc peut-être qu'avec le recul, effectivement, eux, ils nous feront des retours aussi sur leurs souvenirs, sur ce qu'ils ont vécu, sur ce qu'ils ont retiré de ça dans la vie qu'on va vivre par la suite. Enfin,
Il y a déjà, vous, de votre côté, en tout cas, vous dites qu'il y aura un acte 2, où là, maintenant, l'envie, c'est de revenir à, disons, entre guillemets, plus de stabilité, plus de revenir
là,
à cette vie française.
Ouais. On a envie de se poser pour pouvoir s'investir aussi, parce que pas la difficulté, mais la contrainte, en fait, de bouger tout le temps, c'est qu'on ne peut pas s'investir dans un lieu, dans une activité, dans des relations.
Ouais.
Ça, c'est un petit peu le point noir, entre guillemets. Ou alors des relations à distance, quoi, avec la famille, les amis qu'on a depuis longtemps, on conserve ces relations, mais on n'est pas avec eux. Donc ça, c'est un petit peu, effectivement, ce qui commence à nous manquer, le fait de pouvoir s'investir dans quelque chose. Donc là, on a envie de s'installer, de se poser, pour les enfants aussi, parce que là, surtout la grande, parce que le petit, pour l'instant, c'est pas, ouais. c'est pas ouais. son objectif.
Ouais.
Mais voilà, de se poser pour l'instant, et puis... peut-être si eux, ils expriment l'envie de repartir, nous, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On n'a pas de... Pour l'instant, en tout cas, on n'a pas de contre-indication à ça. Ça dépendra d'eux.
Tu gardais beaucoup contact avec la France pendant ces années ? Enfin, je ne sais pas, peut-être que ta fille avait déjà des amis en France. Enfin, y avait ce lien encore très proche avec la France où finalement, vous avez vraiment déconnecté du quotidien ici pour vraiment vivre une nouvelle vie.
On avait effectivement la famille, voilà, les grands-parents, les tatas, tontons, tout ça, avec qui on passait un coup de fil de temps en temps en visio.
Oui.
Et puis on rentrait avec les enfants, on est rentrés les deux étés pendant un mois. Donc on avait quand même toujours ce lien-là. Mais eux, au niveau des amis, ils n'en avaient pas tellement parce qu'ils sont partis petits et... Et ayant changé d'école souvent avant, ils n'avaient pas gardé d'amis quand on est parti au Congo, quoi. Par contre, là, ma fille, par exemple, elle découvre la joie des messages WhatsApp avec une copine congolaise et un copain aussi. Donc, du coup, elle échange des messages WhatsApp avec eux. Voilà, ils s'envoient des photos, tout ça. Ils se racontent des nouvelles de l'école et tout. Enfin bon, donc c'est sympa
C'est fascinant.
De garder ce lien-là, ouais.
C'est génial. Et la discussion touche déjà bientôt à son terme, mais on a l'habitude de poser cette question si tu as vu beaucoup de choses, vous avez vu beaucoup de choses, si tu dois garder deux spots incontournables à découvrir une fois dans sa vie avec ses enfants, est-ce qu'il y a deux lieux comme ça, ou villes ou autres, qui ressortent où tu te dis, ouais, ça quand même, c'est à voir une fois dans sa vie ?
Bon, je ne vais pas être chauvine, mais...
tu peux, hein.
Moi, je vais être chauvine, alors. franchement, la Bretagne en hiver, c'est génial. Surtout en camping-car, c'est magique, quoi. Parce que, voilà, on a la mer, on a le vent, on a toutes ces couleurs, ces odeurs de Bretagne, de mer. Et c'est facile, en fait. C'est extrêmement simple, contrairement à d'autres endroits en France où c'est beaucoup plus compliqué. C'était vraiment... Enfin, notre période Bretagne, en fait, on pensait pas forcément que ce serait la meilleure, mais je dirais pas que c'est la meilleure non plus. Mais en tout cas, voilà, c'est... On a un très bon souvenir, en tout cas, de tous nos petits spots en Bretagne, où on restait un week-end, où on restait une semaine. C'est là, la Bretagne, quoi. Ça vous gagne, c'est ça qu'on
la
dit.
La Bretagne, ça vous gagne, ouais. Tu me fais plaisir, je suis breton, alors ça me parle particulièrement. Donc, la Bretagne, donc finalement, pas besoin d'aller au bout du monde, mais ça, c'est
non,
un
premier... Non, ouais, ça, c'est sûr. Après, dans tous nos spots en camping-car, je ne pourrais pas les resituer.
Ouais, ça ne m'étonne pas.
Parce qu'on n'est pas forcément resté extrêmement longtemps. J'ai quelques souvenirs d'images dans une forêt. On avait trouvé, d'ailleurs, c'était en Suisse, un des rares spots en Suisse qui était chouette. À l'orée d'une forêt, il y avait un toboggan, une balançoire et nous, quoi. Donc, il y avait la forêt. J'ai une photo de ma fille qui est en culotte en train de jouer.
Seul au monde sur une
ouais,
de
on a vraiment l'impression, ouais, c'est ça. Ça, c'était en Suisse, je crois. Après, il y a plein de spots super sympas qu'on a vus au bord des rivières, dans les montagnes, du côté dans les Alpes aussi. Enfin, bon, il y a plein d'endroits super jolis en France. En Suisse, il y avait ce petit spot-là dont je me souviens. Après, le Congo, c'est beau aussi, hein. Pointe-Noire, bon, c'est la mer, c'est, c'est les palmiers et tout ça. Bon, c'est paradisiaque.
Génial.
Camping-car, c'est moins facile, je pense.
Ok, oui, ça ne m'étonne pas. Je ne connais pas, mais ça ne m'étonne pas.
Il faut arriver jusque là-bas, déjà. C'est ça le plus dur, je pense.
Ouais.
Après, si on est là-bas en camping-car, bon, ça peut se faire, mais vu que sur les routes, il y a des trous de... c'est pas des nids de poules, c'est des nids d'autruches, on dit là-bas. Il y a énormément de trous, donc avec un camping-car, s'il n'est pas 4x4, c'est mort. On ne peut pas.
Super. Merci en tout cas, Amandine, d'avoir pris le temps de nous partager ton récit et tes voyages. Je pense que tu vas donner envie à beaucoup de familles de parcourir le monde, en tout cas, on espère.
Moi, j'espère aussi.
et puis, à très bientôt.
À bientôt.